Vous écoutez
RMC.
Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope?
Yes.
Janvier 2013. Lance Armstrong, à vous, Christophe.
Oui, ce 13 janvier 2013, l'ambiance est tendue dans les salons de l'hôtel Four Seasons d'Austin, au Texas. C'est là que Lance Armstrong a donné rendez-vous à la reine du talk show américain, la célèbre Oprah Winfrey, pour une interview qui s'annonce explosive. Le septuple vainqueur du Tour de France, vénéré jusque-là par toute l'Amérique, est conscient que les mots qu'il s'apprête à prononcer vont probablement changer sa vie. Oprah et Lance Armstrong, le worldwide
exclusive. Oui ou non, avez-vous pris des produits dopants pour améliorer vos performances?
Yes.
Oui ou non, avez-vous pris de l'OPO?
Yes.
Avez-vous utilisé du dopage sanguin ou des transfusions sanguines pour améliorer vos performances?
Yes.
Et ainsi, pendant plus de 2h30, le Texan passe à confesse, répondant par l'affirmative aux 112 questions préparées par Oprah. Un acte de contrition douloureux pour Armstrong qui, en 14 ans de carrière, avait toujours nié avec force les accusations dont il était l'objet. Mais au fil des ans, les légers soupçons du début se sont transformés en preuves irréfutables, depuis notamment qu'en 2010, Floyd Landis, l'un de ses anciens équipiers, ait décidé de vider son sac.
One big lie. Avez-vous vu Lance prendre de l'EPO?
Oui, absolument. J'en ai même reçu de sa part en 2003. C'était nécessaire parce que si vous vouliez faire une autotransfusion, vous deviez utiliser de l'EPO pour maintenir votre taux sanguin. Et c'était la routine. Est-ce que ça faisait partie du boulot? Ouais, c'était une chose banale.
Des révélations qui vont entraîner une réaction en chaîne. Tour à tour, une enquête fédérale, puis une autre de l'USADA sont lancées. Quelques mois plus tard, Travis Tygart, le patron de l'agence américaine antidopage, vient livrer à la presse les conclusions d'un dossier de plus de 1000 pages.
Réellement, toutes les preuves que nous possédons sont convaincantes et accablantes. Nous avons des témoins et des révélations qui n'ont jamais été présentées avant. Désormais, nous avons des preuves formelles.
Même l'UCI, qui avait toujours jusque-là couvert Armstrong, est contrainte cette fois-ci de le lâcher. C'est Pat McQuaid, le président de la Fédération internationale, qui prononce le verdict. L'UCI va bannir Lance Armstrong du cyclisme et lui retirer ses 7 titres du Tour de France. Lance Armstrong n'a plus sa place dans le cyclisme, il doit donc être effacé. Une annonce qui fait boule de neige. En quelques heures, tous les soutiens d'Armstrong le lâchent, un à un. Trek, Oakley, Nike ou encore Livestrong, sa fondation contre le cancer. L'ancienne idole estimera le coût financier de sa déchéance à 111 millions de dollars. Acculé, pris à la gorge, Armstrong ne peut plus reculer et décide alors d'avouer ses fautes, espérant peut-être émouvoir l'Amérique. Il n'en sera rien ce jour-là devant Oprah et plus de 28 millions de téléspectateurs de par le monde. Le champion adulé se mue en pestiféré et devient à jamais le symbole même du dopage.
C'était il y a 12 ans, rendez-vous compte, le 18 janvier 2013, les aveux de Lance Armstrong. Notre question, 12 ans après, il me faut un oui ou un non. Je le dis pour Johan, qui est notre nouveau venu dans les grandes gueules du sport. Le pardon est-il possible? Oui ou non? Jérôme Pinault.
Oh non, jamais.
Jamais. Marc Madio.
Moi, je suis plus pour l'oubli.
Ok. Pascal Duprat.
Non, j'ai pas envie d'oublier, on en reparlera, non.
Non, Christophe Cessieux.
Je pense que le pardon est peut-être possible.
Le pardon est possible, ok. Yoann Richaume, oui ou non?
Sûrement pas.
Ok. Jérôme Pinault, forcément, c'est pour toi, c'est cousu main, hein, ce débat Armstrong.
J'ai couru avec lui, et pour pardon, il faut déjà qu'il présente ses excuses aux principales victimes, c'est-à-dire les coureurs, le peloton de l'époque et tous les gens qu'il a tyrannisé pendant toutes ces années. Parce que il a gagné, certes, il a dominé, certes, il a du talent, évidemment, mais il a tyrannisé un peloton. Il est arrivé dans les années après 98, là où on avait tous envie de reprendre un départ nouveau. Moi, j'étais junior en 98, donc quelque part, j'arrivais dans une ère nouvelle. Ce mec-là a réinstauré et a continué à se foutre de la tronche de tout le monde, à se moquer du peloton, à humilier ses adversaires, en obligeant certains de ses coéquipiers à se doper, en mettant la main sur l'UCI, Arjen Verbruggen, et le complice de ce vol à grande échelle. Et il a instauré une atmosphère délétère dans le peloton, à mentir. Il a menti à des gens malades, il a menti à des coéquipiers, il a menti à des instances, et il a fini par craquer parce que monsieur était pris au piège et allait devoir payer. En revanche, les principales victimes, il s'est jamais excusé. Lance Armstrong n'a jamais présenté ses excuses au peloton pour le vol de cette Tour de France, pour le vol de peut-être certaines carrières. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais pas très talentueux, mais ce mec-là m'a sûrement empêché d'être meilleur. Mais je pense aussi à des coureurs que Marc avait dans son équipe, Sandy Cazard, par exemple. Nous, on passait tous pour des tocards parce qu'on était nuls, parce qu'on n'arrivait pas à les suivre.
Mais un mec comme Cazard, surtout parce qu'on s'entraînait pas.
Parce qu'on savait pas s'entraîner.
Mais il y avait que son équipe qui se dopait.
Écoute,
tu parles de ces années-là. Moi, c'est ça la question. Quand il est important.
En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a tyrannisé le peloton. Que quand il est arrivé en 99, il y avait la possibilité de faire un cyclisme nouveau. Il avait la possibilité d'instaurer des nouvelles choses dans le cyclisme, et il a été la locomotive de la continuité des tricheurs. Il y a un pays qui s'est arrêté. Marc, on peut se regarder dans les yeux, qui s'est arrêté
de faire les. France.
C'est la France. Et ce mec-là, il a porté derrière lui tout ce cyclisme-là, et nous, les Français, on a été humiliés. Moi, ma génération a été humiliée à cause de tout cela. Alors, il n'est pas le seul responsable. Mais en tout cas, pendant des années, il nous a donné des leçons, entouré par sa garde rapprochée, parce que je mets dans le même sac les Johan Brunel, etc. Ce garçon-là ne doit pas et ne peut pas être excusé de quoi que ce soit et ne mérite pas le pardon.
Ok, Johan Richaume, vas-y, dis-nous, pourquoi non ?
Ah, pourquoi non ? Parce que moi, j'ai l'impression que je viens déjà d'un sport propre. Donc j'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Forcément, c'est un danger. Et après, bah, j'ai vachement suivi cette histoire-là. Je me suis fait tous les reportages, et c'est juste, enfin, le système que tu décris. Et je suis hyper heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour vivre ce moment. Mais c'est juste ce qui a été monté. C'est impardonnable, quoi. C'est
impardonnable. Et pourtant, alors c'est pas à la même échelle que Lance Armstrong. Et on parlait de tyrannie sur le peloton. Mais Christophe, à un moment donné, on fait souvent des débats sur est-ce qu'on a droit à une seconde chance. Est-ce que quelqu'un qui a pris la main
Je voudrais même pas en aller aller sur ce terrain-là. Mais j'ai quand même l'impression que Armstrong, après avoir été le modèle absolu du cyclisme lorsqu'il était coureur, l'icône finalement que recherchait le cyclisme à l'époque, Verbruggen, le patron de l'UCI, était très content d'avoir ce gars-là qui venait d'Amérique, qui s'était sorti du cancer, c'était un exemple parfait. Aujourd'hui, il est devenu exactement le contraire, c'est-à-dire le bouc émissaire parfait. Il est l'homme que l'on adore haïr, il est celui dont on ne doit pas prononcer le nom, faute de quoi il faut filer à la salle de bain immédiatement, se laver la bouche au savon noir. Il est aussi le symbole de ces années de plomb où tout le cyclisme triché. Oui, je suis désolé.
Non.
98.
Avant lui.
98. Tout le monde était à la bonne sous-soupe de l'OPO.
Oui. Première victoire de Lance Armstrong dans le Tour de France.
99. C'est 99. Tu penses qu'avec l'affaire Festina, tout le monde a renoncé. Il n'y avait aucun moyen. Il n'y avait aucun moyen de détecter l'OPO en 99.
Sauf quelques coureurs.
Donc je pense que pour le monde du cyclisme, eh bien, ça a été parfait. On avait enfin trouvé celui, alors évidemment que en plus il rassemblait tout parce qu'il était antipathique, c'était un dictateur. Je me rappelle ce qu'il avait fait à Simeoni, qui avait osé critiquer le docteur Ferrari, qui était le médecin d'Armstrong. Il était parti en échappée, il était allé le chercher en lui disant toi tu pars pas, tu restes là, tu pourras jamais plus t'échapper. Il avait fait la même chose à Christophe Basson, il lui avait dit toi il faut que t'arrêtes le cyclisme, et celui-ci avait abandonné. Donc c'était un odieux personnage, mais je trouve que c'est un peu facile de dire que il était le seul responsable et le seul à utiliser ces méthodes. Je suis désolé, je sais que vous êtes dans le milieu depuis très longtemps, mais d'autres qui ont touché à la bonne sous-soupe, et aujourd'hui c'est très facile de dire c'était Armstrong le méchant, nous on était évidemment blanc comme des...
Je vais abonder dans le sens de Christophe.
Pascal, promis, oui. Ça, je vais faire un petit teasing, okay. Parce que c'est passionnant ce débat, on n'a pas encore écouté Marc Madiot qui n'attend que ça d'entrer dans l'arène. Pascal Duprat également, on reste sur ce débat jusqu'à la fin de cette émission. On parle de Lance Armstrong. Est-ce qu'il a le droit au pardon ? Venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16. Quelques instants de publicité et on revient, promis. À tout de suite. Allez, reprenons le cours de notre débat. C'était il y a 12 ans, janvier 2013. Les aveux de Lance Armstrong à la télé américaine, mais évidemment devant le monde entier. Vous n'êtes pas encore exprimé. Marc Madiot et Pascal Duprat. On va faire durer le suspense un peu. Pascal Duprat, pour commencer.
Oui, en fait, quoi, en tant que passionné de sport et d'ancien sportif de haut niveau, franchement, je peux pas le pardonner, quoi. Le dopage dans le sport, quel que soit le sport, c'est absolument scandaleux. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en 2024. Je ne sais pas si vous avez lu la déclaration de Vingegaard hier, mais j'ai l'impression que c'est toujours la même ambiance, quoi. Il y a toujours des suspicions de dopage. Et je sais que Marc a envie de prendre la parole. Je vais lui laisser. Je sais aussi que lui, il a fait un choix avec ses équipes. C'est d'être clair, c'est d'être transparent. Mais j'ai pas l'impression que tout le monde est encore transparent dans le cyclisme.
Interview au Monde, je resitue, de Jonas Vingegaard. Mm-hmm. Hier, on voulait en parler ce matin, on en reparlera, c'est... promis, dans cette émission. Il a déclaré qu'il voulait que l'Agence mondiale antidopage interdise l'usage du monoxyde de carbone. L'usage du monoxyde de carbone, on en a longuement parlé dans cette émission. C'est d'ailleurs, à mon avis, les propos de Marc Madiot et Jérôme Pinault qui ont un petit peu secoué le cocotier de l'UCI et de l'AMA pour se positionner, même si cette histoire n'est pas encore réglée. Et là, il veut son interdiction. Sauf que Jonas Vingegaard, durant le dernier Tour de France, il a pris, lui aussi, du monoxyde de carbone. Voilà, c'était pour resituer. Marc Madiot.
Alors, la question du jour, c'était les aveux d'Armstrong. Le pardon est-il possible un jour ? Pour donner le pardon, faut-il encore qu'il soit demandé ? À ma connaissance, ou alors j'ai pas tout lu et j'ai pas tout suivi, Lance Armstrong n'a pas demandé le pardon et ne s'est pas plus excusé que cela auprès du peloton de l'époque. Donc, avant de parler de pardon, moi, je pense que le plus important, c'est à lui d'avoir cette démarche de demander pardon. Après, il sera toujours temps éventuellement de répondre à cette question.
Tu tendrais la main, toi ?
Si on demande pardon, au moins on aurait la possibilité d'échanger directement ou indirectement avec lui. Moi, Armstrong, je l'ai côtoyé dans le peloton sans le côtoyer, de par le fait que j'ai jamais eu de conversation avec lui. J'ai juste ressenti des intimidations, des pressions. On voyait quand il y avait eu dans le Tour, il y avait eu une initiative de tenter de faire des étapes sans les oreillettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Cette journée avait été complètement bafouée. L'étape avait été vendangée par Armstrong et quelques autres pour pouvoir continuer à travailler avec les oreillettes. Donc, le dopage d'Armstrong, c'est une chose. L'attitude et le comportement du personnage, c'est autre chose. Et j'ai presque envie de dire aujourd'hui qu'il paye plus
Que
son dopage. Il y en a eu d'autres dopés après derrière, peut-être même plus dopés que lui. Mais l'effet boomerang a été moindre parce que il n'y avait pas cette emprise et cette pression mise sur le reste du peloton. Et je pense que s'il veut retrouver une forme de stabilité ou sans obtenir la rédemption totale ou le paradis, je pense que ça passe d'abord par une demande de pardon et peut-être un échange avec une partie du peloton de l'époque, des coureurs qui ont subi ces pressions. Et je pense que ça commence par là, avant d'aller sur le pardon. Et moi, pour le moment, ma position, elle est très simple. Je suis plus pour l'oubli. Tant que la demande de pardon n'a pas été effectuée, je suis plus pour l'oubli.
Et on va poster ça sur les réseaux sociaux et on va voir, et on va citer Lance Armstrong et on va voir si il a envie de demander pardon.
On le voit voilà. Aujourd'hui, la réponse, elle est claire. Il s'entoure que de gens qui l'idolâtrent encore. Il discute avec sa caste à lui. Il dénigre totalement les gens qu'il a intimidés et écrasés par son dopage et son caractère à l'époque. Ses potes aujourd'hui autour du podcast, c'est George Hincapie. Il a accueilli Bradley Wiggins
qui a pourtant balancé sur lui,
mais ils sont expliqués depuis. Il a accueilli Jan Ullrich.
Justement, je trouve que c'est plutôt une bonne action. Dire Ullrich était quand même au fond du trou, dépression nerveuse totale, inquiété par la justice. Il a tendu la main
à celui qui je voudrais qu'il appelle Sandy Cazard, qu'il aille en région parisienne.
Ça veut dire qu'il n'est pas totalement perdu, notre ami Armstrong. Il n'est peut-être pas totalement perdu avec ce qu'il a fait par rapport à ses anciens adversaires.
Mais ce serait bien aussi qu'il le fasse pour d'autres plus anonymes.
Après, moi, je voudrais dans la continuité de ce qu'on vient de dire sur Armstrong, ce qu'a fait Vingegaard dans l'interview dans Le Monde est pour moi extrêmement intéressant. Et c'est dommage qu'on n'ait pas le temps aujourd'hui d'en parler. Parce qu'on est quand même dans un truc où on suppose et on imagine que des coureurs ont eu recours
au
monoxyde de carbone. Et là, on a un des deux ou trois meilleurs coureurs du monde actuellement qui fait état de cette situation et qui pose le sujet sur la table pour faire en sorte que personne n'utilise le monoxyde de carbone. Je trouve que c'est une belle avancée dans la lutte antidopage parce qu'il y a une prise de conscience quelque part. Je ne sais pas s'il l'a utilisé ou pas, Vingegaard, le monoxyde de carbone.
Il dit que ça peut être détourné à des fins mal intentionnées.
Voilà, et le fait que l'ancien vainqueur du Tour puisse dire cela en conférence de presse tout en sachant que la concurrence va le lire. Je trouve ça extrêmement intéressant. Eh bien, et je pense que ça ouvre un débat nouveau dans la lutte antidopage, et je pense qu'il faut prendre très au sérieux ce qu'a exprimé Vingegaard, et ça doit déboucher sur quelque chose de plus fort et de plus intense, notamment avec les instances, que ce soit l'association des coureurs ou avec les instances de l'UCI, le président l'appartient. Parce que là, on met le doigt sur quelque chose qui peut être un déclencheur extrêmement intéressant et important. On sait tous que le monoxyde de carbone, aujourd'hui, on ne le retrouve pas, ni dans les urines, ni dans le sang, ni dans les cheveux. Et là, on a un coureur qui dit, attention, l'usage du monoxyde peut être détourné. Et ce coureur qui en parle, c'est l'ancien vainqueur du Tour. Donc c'est très intéressant.
L'enquête est toujours en cours. Et promis, on a initié ce débat il y a 2 mois. On reparlera du monoxyde de carbone. Et c'est vrai qu'il visait notamment l'équipe de Pogacar.